définitivement bien sur Radio Galère 88.4 pour l'émission ND Chaîne. C'est parti pour une heure et demie contre tous les enfermements. Et là, aujourd'hui, plus particulièrement, celui bien connu des prisons avec ses murs et ses barreaux qui enferment tous les jours un peu plus. On atteint des records, 68 000. Merci Madame Taubira, qui d'ailleurs devrait venir faire un tour à la friche. Ah, peut-être un scalp en perspective. Ou dans tous les cas, voilà, quelques témoignages d'un ex longue peine connu sur dans les rues de Marseille, un dénommé Yann-Marc Rouillant. Voilà, il y aura aussi des nouvelles de Christine Rebailly, dont on vous parle souvent et dont on a envie de parler. Voilà, une femme qui résiste avec haine, rage et hargne à l'enfermement, qui tous les jours essaye de la réduire à néant et n'y arrive pas. Voilà, voilà, c'est des nouvelles du front, celle de la tôle. Et c'est sur ND Chaîne 88.4 sur Radio Galère. C'est bien ça, c'est bien Radio Galère, c'est bien 88.4 et c'est bien ND Chaîne. Voilà, on va commencer peut-être par quelques nouvelles du front.
Quelques brèves, brèves.
Alors, on va commencer avec Stockholm. Solidarité avec les rebelles de Stockholm. Nous ne voulons pas juste une part de gâteau. Nous voulons toute la boulangerie réduite en cendres. Durant 5 nuits, des personnes de Stockholm et de ses alentours ont pris les rues pour exprimer leur mécontentement face aux injustices du système et de la société qui en résulte. Après des années d'intimidation de la police, de l'école, des garderies d'enfants et autres institutions étatiques, le meurtre d'un vieil homme par la police dans la banlieue de Husby a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nuit après nuit, les gens en colère reprennent les rues et se rebellent contre tout ce qui les opprime et anéantit leur vie. Ainsi, au cours des 5 dernières nuits, dans Stockholm et ses alentours, 4 postes de police, des écoles maternelles et des écoles ont été attaquées avec des pierres ou par le feu. Environ 100 voitures ont été incendiées et les flics ont été bombardés de pierres. Alors ils ont écrit un texte. Pour nous, ce n'est ni désespéré ni des émeutes gratuites. Pour nous, ces attaques visent diverses formes d'autorité. L'autorité qui, dès l'enfance, contraint les gens à n'importe quel type de productivité, de la maternelle à l'école, de l'apparence physique au logement et au travail. L'autorité qui tente de serrer toutes les pensées rebelles dans les costumes de conformité. Cependant, à la fin, ce système de merde n'a tout simplement pas assez de place pour tout le monde, peu importe si le costume te va ou pas. Ainsi, nous n'avons pas été surpris de voir surgir des débats sur l'intégration ratée, le faible niveau d'éducation et les mauvaises perspectives de travail des gens de la banlieue. Mais ces discussions ne sont pas les nôtres, puisqu'on se débrouille sans les bénéfices de l'État qui prennent la forme de l'intégration, de l'éducation et du travail, ce qui signifie rien d'autre que la pacification sociale, tout comme nous pouvons vivre sans les bénéfices de l'État qui prennent la forme de la surveillance et de la police. La répression et la paix sont les deux faces d'une même médaille, celle d'une fausse liberté. C'est signé. La solidarité avec tous les insurgés, une accolade et de la force pour les rebelles de Suède.
Voilà, encore une fois l'occasion pour nous de montrer toute notre solidarité donc à tous les peuples en lutte, et ils sont de plus en plus nombreux et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, de Stockholm à Istanbul, peut-on le rappeler, voilà, du Caire jusqu'à Tunis où ça se bat encore.
Et ouais, donc en ce qui concerne la Turquie,
On va pas revenir dessus en détail, mais voilà, comme tu disais, juste un petit clin d'œil pour les gens qui se battent là-bas, sachant que ça dure depuis des semaines et que ça n'a pas commencé il y a quelques jours comme on commence à l'entendre ici, mais que l'occupation du parc, parce qu'à la base c'est parti d'une occupation de parc, qui avait commencé le 28 mars dernier, et donc depuis c'est jour et nuit que les gens descendent dans la rue. Et ce qui est assez intéressant là-bas, c'est que justement, alors il n'y a pas les militaires qui sont là-bas, parce que souvent il y a aussi les forces armées militaires qui sont derrière pour faire des cours d'État. Et que là, c'est des gens de divers horizons qui s'y retrouvent et qui luttent ensemble et qui luttent concrètement. Alors bien entendu, il y a une énorme répression, ils se font pas mal taper sur la gueule, mais ils s'organisent plutôt bien, ils réussissent à faire aussi reculer la police pas mal d'endroits. Ils ont réquisitionné des pelleteuses notamment pour charger les flics avec. Fatalement, ça inverse un peu le rapport de force. Et voilà, mais c'est juste une affaire à suivre. On va pas rentrer trop dans les détails parce qu'on n'en a pas non plus et qu'on n'en a pas de direct, de nouvelles directes. Tu me poses une bonne question. Parce que c'est par rapport à l'aménagement urbain et qu'ils veulent, la population locale au début voulait pas qu'il y ait de travaux, et après c'est parti sur des revendications. Pourquoi tant de thunes alors que justement commence à galérer comme partout ailleurs et qu'ils ont déjà du mal à se nourrir, et que quand tu vois des millions de thunes passer dans un truc. Et voilà, donc c'est réoccupation du territoire, ça part de ça, donc de résistance assez locale. Ce qui fait aussi écho à d'autres luttes dont on parle aussi, je pense souvent, que ce soit Notav ou la ZAD à côté de Nantes et compagnie. Voilà, et du coup, on donnera des nouvelles. En tout cas, si vous en voulez, il y en a un peu tous les jours qui passent, on le répète encore, hein, sur le site de Jura Libertaire. Il y a des textes en anglais, en français qui tombent tous les jours, qui arrivent de là-bas et qui racontent un peu tout ce qui se passe. Voilà, donc tenir vos yeux et vos oreilles à l'écoute. Et en tout cas, ici, on est solidaires avec tous les gens qui se tapent. À Marseille, c'est où Marseille?
Ouais, Marseille, mais bientôt, on y croit.
Des choses qui se passent en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Mais...
Marseille, ça. Ah voilà, donc c'était la petite rubrique bref. Et du coup, on va rentrer dans le vif du sujet parce qu'il y a quand même beaucoup de matière à passer ce soir. Et comme tu le disais sur le générique, je crois la première partie, on la balancera sur un témoignage donc de quelqu'un qui a passé de nombreuses années. Non. Mais qui risque d'en passer peut-être des nombreuses. On lui souhaite pas, en tout cas, donc ouais, de Christine dont on vous a déjà parlé.
Voilà, donc Christine dont on a déjà parlé, Christine qui est encore en détention, voilà, qui après avoir été à Saint-Étienne, à Lyon, à Auxerre, et ben maintenant se retrouve au centre de détention de Bapaume. Donc, ce qu'on vous propose d'écouter, c'est d'abord des propos qu'elle-même tient sur sa détention. Ça, c'était des propos qui ont été recueillis il y a maintenant bien 2 ans. Voilà, quand elle était à l'extérieur à ce moment-là, et puis ensuite on enchaînera avec des lettres plus récentes, qui sont donc des témoignages depuis l'intérieur de ce qu'elle vit actuellement. Voilà, et puis donc là c'est une première partie de ces lettres, et on écoutera la seconde partie sans doute la semaine prochaine.
Ouais. Et pour information, Bapaume, ça se trouve dans l'extrême nord de la France, et donc elle qui est plutôt du côté d'Avignon, c'est pas un hasard si elle s'est retrouvée retransférée là-bas. C'est justement pour la casser un peu après toutes les révoltes qu'elle a quotidiennement, pour l'éloigner de sa famille et de ses proches, qui fait que là-bas, du coup, elle connaît personne, elle voit personne. Et le but est de lui faire le plus de mal possible. Voilà.
Christine est bergère, Christine aime la route et pisser dans l'herbe. Mais Christine est amenée à se rendre régulièrement en prison pour rendre visite à son copain.
Fin juillet, là, je vais au parloir voir un copain. Donc on arrive dans le sas, tac, ils nous mettent tous là, un par un, on donne la carte d'identité. Et là, c'est mon tour de passer. Donc je passe, pip, les chaussures sonnent. Donc je défais les chaussures, je repasse, ça sonne pas. Et il me dit, retirez votre veste. Mais non, je retire pas ma veste, ça a pas sonné. Retirez votre veste. Non, je retire pas ma veste. Et là, je commence à m'exciter, à bouger de plus en plus. Et lui, il reste impassible, tu vois, le mec. Probe, je n'attrape pas la provocation. Retirez votre veste. Au bout d'un moment, la colère me prend. Je retire la veste, le t-shirt, le pantalon. Et j'avais pas de soutien-gorge en plus. Je vais faire très en culotte devant tout le monde. Et je regarde le mec droit dans les yeux, lui, le maton, les yeux par terre. Il dit, ça va là, comme ça, tu vois. Et je repasse sous le portique, tu vois, ça sonne toujours pas. Pendant ce temps, évidemment, mes vêtements étaient passés au détecteur X et je me rhabille. Et puis, il dit, bon, ben, on va aller au parloir. Vous, vous restez là, vous allez voir le chef. Je dis, hors de question, je n'ai pas le chef que je suis noire, c'est mon copain. Je veux pas voir le chef, je veux aller au parloir, j'ai pas sonné, j'ai rien. Donc ils m'ont mis de côté, hein. Le chef est venu, il m'a fait le petit speech, puis ils m'ont laissé aller au parloir. Et surtout, ils ont bien fait d'attention à la fin du parloir, que je croise pas les autres familles, quoi, que les autres familles soient convaincues que j'étais en garde à vue.
De rébellion en outrage, de refus de prélèvement ADN à évasion de garde à vue, Christine finit par être condamnée et se retrouve entre quatre murs.
La talonnière, la cour des femmes, elle est vraiment chouette. Il y a de l'herbe, il y a des petits bancs et tout. Les nanas, elles étalent leurs serviettes, elles se bronzent. Et il y a un arbre, un vrai arbre. Et j'étais là, allongée sous l'arbre, et j'ai entendu un piaf. Et j'ai eu envie de monter dans l'arbre pour voir si le nid il était habité. Donc je suis montée dans l'arbre, toutes les filles m'ont dit « Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais ?» Je dis « Je monte dans l'arbre. » Évidemment, les matons qui arrivent « Descends là, descends là. » Je dis bah, « Je monte voir le nid et je redescends. » Et je leur gueule en bas « Ouais, bande de moutons, pourquoi vous leur obéissez ?» Ils m'ont répondu « Ta gueule, la chèvre !» Donc je redescends, là ils me tombent dessus à 8 pour m'emmener à la cellule d'isolement. À la talonnière, au bout de 10 jours, j'en étais à 5 rapports de discipline. Donc ils m'envoient au mitard. Mais à la talonnière, il n'y a pas de mitard chez les femmes. C'est une trop petite prison, ils n'avaient pas prévu ça. Puis on n'a pas prévu que les femmes se rebellent non plus. Et puis,
à
Corba. J'avais eu le temps de lire le petit livret qu'ils donnent, et j'arrive en prison. Et ils expliquaient qu'au mitard, t'avais le droit à avoir ton tabac et à bouquiner. Et en fait, il a fallu 18 heures pour que j'aie mon tabac. J'ai mis un bordel phénoménal, j'ai tendu le drap pour qu'il puisse pas... Parce qu'en fait, le mitard, il y a la porte avec l'œilleton où il regarde. Un mètre et demi après, il y a une grille dans laquelle il y a un tout petit trou où ils peuvent passer le bol d'eau chaude le matin pour pas avoir de rien. Et puis, il y a ta cellule où il n'y a que le matelas et la table. Donc, si tu prends le drap, tu le tends sur la grille, l'œilleton, il est fermé. Enfin, ils ne peuvent pas voir. Donc, j'ai revendiqué, ils sont venus, le directeur est venu. Il y a un moment, ils sont venus assis, ils m'ont fait une clé de bras là, dans le dos, en me disant « Maintenant, tu signes le règlement intérieur. » Je ne signe pas le règlement intérieur, il dit que j'ai le droit au tabac, le règlement intérieur, je ne vais pas signer ça comme quand tu m'as donné mon tabac, salaud, il est où mon tabac ? Il dit « Arrête de bouger, arrête de bouger. » Et donc, au bout d'un moment, ils disent « Bon, voilà, on voit le psy, quoi. » Ils voulaient faire l'entretien médical à travers la grille. « Non, ça se passe pas comme ça, là. Tu te souviens d'Hippocrate, tu rentres dans la... »« Oui, mais vous avez l'air énervé. Et alors ?»« Ouais, évidemment, je suis énervé, t'es tout bim. T'es là pour ça, c'est parce que je suis énervé que t'es venu, non ?»« Oui, mais non, tu laisses les matons de l'autre côté, tu rentres. Ou alors, tu me fais un papier comme quoi tu refuses de m'observer. » Et bon, d'accord, mais vous engagez à pas être violent avec nous. Je dis, si tu ne me mets pas la main dans le dos, si tu me colles pas au sol, il n'y a aucune raison que je sois violente avec toi. Moi, je veux mon tabac, c'est tout. Et puis, il me dit, ouais, mais là, vous avez l'air vraiment énervé. Peut-être que ce serait mieux d'aller à l'hôpital, ça serait moins contraignant. Je dis, arrête tes conneries, je sais bien, à l'hôpital, on est attaché sur le lit. Là, je suis enfermé en cellule. Oui, mais là, vous vous rendez compte, si énervé comme ça, vous pouvez blesser un surveillant, ça va vous faire encore du pénal. Je dis, mais... Dis-leur à tes surveillants de ne pas me toucher, il n'y aura aucun problème. Oui, mais ils pourraient vous faire mal à vous seriez mieux à l'hôpital. Bon, au final, ils m'ont envoyé à l'HP, un HP spécial, puisque ça s'appelle l'UHSA, unité hospitalière spécialement aménagée. C'est à Bron, et c'est une annexe de la prison. Ça dépend totalement de la pénitentiaire. Par contre, après, bon, il y a encore des barreaux aux fenêtres, il y a encore des cellules fermées. Mais comme à l'hôpital, la plupart du temps, les portes aussi sont fermées en HP, ça change pas grand-chose. Et là, il n'y a que des types en blanc. Par contre, dès que tu t'énerves, ils disent « Attention, on va appeler les surveillants !» attaché sur le lit, piqûre dans le cul, jusqu'à ce que tu sois bien drogué. Ça s'appelle du loxapac. C'est un truc qui fait de toi un légume. Tu dors 15-16 heures par jour. Et le reste du temps, tu trouves tout normal. Vraiment, jamais rien de raison de s'énerver. Ouais. T'es là, assis sur le lit, t'attends, ils te disent bah, tu veux fumer une cigarette, ouais, alors tu sors. Tu dis mais on rentre déjà, ah bah oui, ça fait 20 minutes, on rentre. T'as plus le truc de dire mais attends, c'est une heure la promenade, c'est... non, faut que tu rentres. Tu rassois sur le lit. Et non, c'est efficace.
C'est comme si tu te réveilles et que tu te souviens que t'as rêvé que tu te faisais chier.
Début novembre 2012, suite à une altercation avec les matons, en allant visiter son compagnon au parloir, à la tôle de Corbas, Christine a été emmenée en garde à vue. Puis, en attendant un procès qui a eu lieu le 13 février, elle a été placée en détention à la maison d'arrêt de la Talaudière, à Saint-Étienne. Elle reste incarcérée depuis, et purge la somme de différentes peines écopées ces dernières années, suite à de multiples insoumissions, à l'autorité de différentes institutions. Les flics, l'administration pénitentiaire, les institutions psychiatriques. Christine est bergère. Elle a notamment eu des soucis avec les institutions répressives lors de sa participation à des luttes contre la loi LOPCI 2, contre le puçage des moutons.
Depuis son incarcération, Christine a eu de multiples embrouilles en détention. Elle a été placée au MITAR, au quartier disciplinaire et au quartier d'isolement. Elle a été transférée de la Talaudière à Corbas, à Lyon, puis à Joux-la-Ville. Aux dernières nouvelles, elle est maintenant à Bapaume, vers Lille. Ses proches, eux, sont dans le sud. L'accumulation d'altercations en détention risque d'alourdir sa peine, voire de la mener à nouveau devant les tribunaux. Dans différentes lettres qu'elle a pu faire sortir de prison, elle raconte ses combats en détention et la répression féroce.
Jeudi 31 janvier, Corbas, quartier disciplinaire.
Ne reculant devant aucun défi, pour vous fournir des infos fraîches et diverses, votre envoyé spécial au pénitencier est maintenant au MITAR à Corbas. Je suis passé au prétoire, à la Talaudière, et j'ai pris 15 jours de MITAR. 15 jours ferme et 8 jours avec sursis. Je ne croyais pas que 6 mois allaient s'écouler sans que ça me tombe dessus, même si l'idée était séduisante. J'ai donc appris que je serai transféré ce lundi 28. Il n'y a pas de MITAR au quartier femme de la Talo. Entre le prétoire et ce transfert, j'ai vu un OPJ au parloir pour m'auditionner sur l'incendie du 28 novembre. Il m'a dit que selon lui, ce serait classé sans suite, mais on sait ce que ça vaut la parole d'un flic. J'ai aussi eu un signalement au procureur le 19 décembre, suite à une prétendue bagarre avec une co-détenue en promenade. Ça me fait beaucoup plus chier car c'est faux. On n'a pas échangé un seul coup et si moi j'ai été blessé, c'est par les gros bras en bleu qui m'ont sorti manu militari de la cour. J'ai donc fait un recours à l'ADI à propos de ce rapport pour que les infos contenues dans le dossier disciplinaire soient honnêtes, si je vais un jour en procès pour ça. Dimanche 27 janvier, à la promenade, je me suis à nouveau engueulé avec la même fille. Cette fois, on a échangé des coups. J'en ai pris plus, car elles étaient deux contre moi. Bien sûr, c'est moi que les bleus ont remonté en cellule, menotté dans le dos. Après m'être calmé, j'ai demandé à téléphoner, comme j'y ai droit. En fait, la surveillante ne voulait pas m'ouvrir sans un surnombre de matons, comme ils me le font souvent, malgré l'accord avec la direction le 15 novembre. L'OXY peut témoigner que j'étais calme. Mais les matons m'ont foutu au sol le temps de mettre en cellule le repas dans une barquette en plastique. J'ai dit « je veux juste téléphoner, j'y ai droit, de quoi avez-vous peur ? Je ne me débat même pas. » Mais ils m'ont refoutu en cellule, et je n'ai pas pu bloquer la porte. J'étais furax, et j'ai glissé du papier journal sous la porte pour l'enflammer, comme je l'ai souvent pratiqué. Ils ont ouvert la porte. L'un d'eux avait un instincteur. Il ne s'est pas contenté d'asperger la porte, mais me l'a délibérément aspergé. J'étais en train de respirer à la fenêtre. Je suis allé vers eux en gueulant. « Tu t'amuses bien ?» Ils ont essayé de la refermer, mais je l'ai bloqué avec le genou. Ils se sont alors énervés et m'ont foutu au sol, dans la neige carbonique. Ils m'ont menotté dans le dos, en me faisant vraiment mal à l'épaule et en serrant très fort. Depuis leur cellule, des filles criaient « Salaud, lâchez-la !» On t'a entendu dire que tu allais lui casser le bras. Il m'a demandé de dire aux filles de se calmer, mais j'ai refusé, demandant juste à ce qu'il lâche l'épaule.
Je suis resté au sol, sous ce mec, le temps qu'il vide entièrement la cellule. Fringues, bouquins, poubelles, tables. Puis, ils m'y ont refoutu en me laissant un doliprane sur l'évier. Elle était trempée et noire de papier brûlé, mais j'étais trempé et mal en point. À 7h du matin, quand ils ont ouvert, je suis allé vers la cabine. Mais ils m'ont dit que je téléphonerais après la douche. J'ai accepté, car j'en avais vraiment besoin. Quand je suis retourné dans la cellule, ils en ont profité pour claquer la porte. J'ai gueulé, mais vous aviez dit que je téléphonerais après. Et ils ont répondu.
Ben ouais, après. Tu téléphoneras après. Allez, bon quartier des Spolinaires.
Et un de ces salauds rigolait en disant.
Ben quoi, tu chiales, Ribailly ?
Alors que je répétais à bout de nerfs. T'avais dit !
Puis, Christine est transférée vers Corbas.
Entre 7h et 9h, toutes les filles qui sont passées ont vu mon bordel dans le couloir et la crasse sous la porte. Beaucoup ont été choquées et m'ont gueulé quelques mots de solidarité. J'ai aussi eu un yo-yo de mon propre tabac qu'elles ont pris dans ma veste, sur le tas. Hier, j'ai vu le toubib dans le cadre de l'accueil arrivant au mitard. Elle m'a fait un certificat médical avec 3 jours d'ITT. J'aimerais déposer plainte pour abus de pouvoir et violence. Pensez-vous que c'est possible ? Voulez-vous m'y aider ? Bon. Après ça, j'étais remonté à bloc pour faire face aux mitards. Ils ont dû le comprendre, car ils ont eu une toute autre position qu'il y a 2 ans. Au greffe, ils se sont contentés d'un non, quand ils m'ont demandé la biométrie. J'ai pu avoir mon tabac à la porte de la cellule. J'ai vite eu des bouquins et de quoi écrire. Grâce à la réforme, j'ai même une petite radio. Du coup, libéré de la peur qu'il me psychiatrise, je vis bien mieux le mitard que je ne le craignais. J'écris beaucoup, vous voyez. Je fais des séries de pompes et abdos. Je dors bien.
Qu'est-ce que vous ne savez pas sur le quartier disciplinaire de la maison d'arrêt pour femmes ? Il y a 3 cellules, 2 cours goudronnées de 6 par 8, cernées de murs et grilles de 3 ou 4 mètres de haut. Et au plafond, tellement tapissé de barreaux, grillages serrés et rouleaux de barbelés, que j'imagine que la neige ne passe pas. En tout cas, le soleil, c'est sûr, n'atteint jamais le sol.
Mardi 5 février, Corbas, quartier disciplinaire.
Ici, j'ai découvert une cellule encore plus flippante que le mitard. Voilà ce qui s'est passé. Avec le lieutenant, toute la semaine, ça s'est mal passé, malgré le sureffectif constant, me surveillant. On ne fait pas semblant d'être potes, mais il fait ce à quoi il s'est engagé et a compris que son intérêt était le même que le mien, que j'obtienne des réponses à mes mots dans un délai correct. Il a même institué, sans que je le demande, la douche quotidienne, 2 promenades par jour et plusieurs appels téléphoniques par semaine. Bref, j'avais mon rythme. Mais l'équipe de ce week-end a voulu changer la donne. Dimanche, ça a été encore plus tendu. Ils m'ont mis à la promenade dès 8h du matin, alors qu'il faisait presque encore nuit. Puis ils m'ont refusé la douche, alors qu'ils me l'avaient proposé le matin. À midi, ils n'ont pas ouvert la grille pour me passer la gamelle. Alors le soir, quand j'ai vu qu'ils n'ouvriraient pas plus, je leur ai dit « Si, vous allez ouvrir !» Et j'ai enflammé une feuille de papier journal. Ils ont refermé la porte en laissant la gamelle dans le sas, hors accès. Puis est venu un lieutenant pour calmer le jeu. Je lui ai expliqué que je refusais d'être servi comme un kleps au chenil, que je ne lui donnerais le briquet en échange du repas quand il aurait ouvert la grille. Il m'a dit que je grillais mes chances d'avoir le parloir interne que je réclamais, alors que la direction avait émis un avis favorable. Je me doutais bien qu'il mentait, mais je ne voulais pas prendre de risques, alors je lui ai donné le briquet. Il est parti aussitôt, sans ouvrir le sas et sans même me donner la gamelle. 10 minutes après, ils étaient 6, avec casque et bouclier, pour me monoter. Cassés en 2, ils m'ont mené à travers toute la maison d'arrêt. Je n'ai pas bien compris où on allait, mais on a repris le souterrain. Ils m'ont accroupi au fond d'une cellule pour me démonoter après m'avoir pris lunettes et baskets. J'ai demandé où on était et ils m'ont dit « aux arrivants ». Mais la cellule n'avait rien d'une cellule d'arrivants. Je sentais la patte de l'architecte pervers de la chambre de l'UHSA. Lit, table, tabouret, tout était en béton. La télé était protégée par un plexiglas, tout comme la fenêtre. Impossible d'accès. Il n'y avait pas de drap, juste 2 couvertures en tissu. Même la télécommande était incrustée dans le mur et ne marchait pas. Une grande surface était prise par la douche et le chiotte. L'évier en alu, comme au mitard, sauf qu'il n'y avait pas de robinet, juste un jet d'eau pour boire. Tout était super propre, lisse. J'ai vu un petit sac sur la table. Il y avait une affichette.
Vous êtes en souffrance. Il est nécessaire de vous aider. Ce kit fait partie du protocole d'aide. Le pyjama est aéré pour un plus grand confort. En cas de détresse, faites appel au surveillant, votre premier interlocuteur.
Et un pyjama bleu, comme un HP. J'ai eu peur. J'ai pensé qu'il m'avait hospitalisé au SMPR, que j'étais en hospitalisation d'office, sans avoir vu de toubib. J'ai appelé, mais personne n'a répondu. Une demi-heure plus tard, comme j'avais bouché le judas avec l'affichette, ils ont cogné à la porte, joué avec la lumière et appelé à l'interphone. J'ai décidé de ne pas répondre, comme eux. Ils ne voulaient pas rentrer, juste mater. À 9h le lendemain, j'avais faim et envie de fumer. J'ai fureté dans la cellule pour faire quelque chose. On ne pouvait rien casser, pas appeler. La fenêtre donnait sur une cour intérieure, un toit en fait, où jamais un humain n'est allé. Tout était arrondi, lisse, aseptisé. C'était franchement flippant. Au plafond, il y avait une demi-sphère en alu poli pour faire miroir depuis le judas et ne laisser aucun espace sans vue, même collé à la porte. C'était vraiment de l'incitation au suicide par sa volonté affichée de le rendre impossible. La frustration, même pour moi, qui ne veut pas crever, était à son comble. Enfin, vers 11h, j'ai entendu une surveillante me dire que j'allais voir un médecin. J'ai pris une grande inspiration et accepté. Ils étaient au moins 12 dans le couloir. L'entretien a été assez court quand elles ont compris que j'étais en colère et pas suicidaire. Elles m'ont dit le sigle de la cellule, mais je ne m'en souviens plus. Il y avait un P comme protection et elle est effectivement au quartier arrivant. J'imagine le pauvre gars, tout juste sorti de garde à vue et enfermé dans cette cellule d'incitation au suicide lors de sa première arrivée à la rate. La façon la plus ignoble de lutter contre la surpopulation. Elles sont belles, les règles européennes.
Dimanche 10 février, QD de Corbas.
Demain, je dois retourner à la Talo. Excédé par le refus de parloir interne,
avec son compagnon incarcéré aussi à Corbas,
j'ai essayé encore de revendiquer vendredi. Sanction immédiate. Plus de lumière et plus d'allume-cigare. Bien sûr, pas de briquet en cellule. Je vous joins la lettre que j'ai écrite à la direction. Quand on se targue d'apprendre aux autres à respecter la loi, il faut d'abord, par cohérence, à défaut d'honnêteté, la respecter soi-même. Or, j'ai été 15 jours en quartier disciplinaire, 3 lundis, et vous ne m'avez permis qu'un seul parloir. J'ai signalé, dès l'arrivée au médecin, que j'avais une ordonnance pour de la kiné, et il n'y a eu aucun suivi. J'ai pas pu m'alimenter, du dimanche 3 à midi, au lundi 4 à midi. Malgré sa demande du 30 janvier, mon avocat n'a pas obtenu son permis de communiquer. J'ai été jugé en mon absence le 5 à Aix-en-Provence, sans que soit organisé d'extraction ou de visioconférence. Je n'ai pu ni lire, ni écrire, ni fumer, du vendredi 8 à midi au samedi 9 à 8 heures. L'évier de la cellule du quartier disciplinaire est bouché. La télévision de la cellule d'incitation au suicide ne marche pas. Le flotteur des toilettes est coincé. La première semaine, je n'ai vu qu'une fois le médecin. Vous avez laissé nombre de mes courriers sans réponse, et les gradés ont parfois refusé de répondre à mes questions. La cage de promenade est fermée de murs si hauts et fermée par un grillage si serré que ni la neige ni le soleil ne l'atteignent. Où est l'heure de promenade obligatoire à l'air libre? Le courrier interne m'a toujours été remis en retard, ou pas remis du tout. Je continuerai à exiger le respect des lois, à défaut du respect humain, qui vous est inaccessible.
Dimanche 17 février, Joux, quartier disciplinaire.
Je continue mon tourisme pénitentiaire. Je suis maintenant en centre de détention, près d'Auxerre. À mon arrivée, j'ai accepté la fouille au corps et répondu au topo du chef.
Si vous vous tenez bien, ça se passera bien.
Pas. Si vous ne me touchez pas, je me tiendrai bien. Ils n'ont pas insisté pour les empreintes et ont fait une photo tête baissée et yeux fermés pour la carte de circulation. Puis, je suis allé au mitard. Il fait super froid en cellule et ma voisine, une jeunette toute maigre, en chie beaucoup. Depuis 3 jours, On réclame qu'ils viennent prendre la température, mais ils ne font rien. Je me souviens avoir lu qu'un mitard avait été fermé, après qu'un huissier ait relevé 14 degrés. Je suis sûr qu'il ne fait pas plus ici. Il y a 2 mois, 2 filles ont pris en otage une surveillante. Après 30 jours de mitard bien agité et une comparution immédiate, 18 mois pour l'une, 2 ans pour l'autre, elles ont eu le droit à un transfert disciplinaire, mais je ne sais pas où.
Février, quartier disciplinaire, joue.
Des nouvelles du frigo. Vendredi, alors que j'étais assez détendu, vu l'accueil moins militarisé qu'à Corbas, j'ai réclamé, par écrit au directeur, qu'il s'inquiète de la température des cellules. Même s'il m'avait promis, lors de la rencontre arrivant, de répondre à mes mots, je n'ai pas eu de réponse. Samedi après-midi, ma voisine a eu des crampes à force de se crisper contre le froid. Un infirmier de l'UCSA lui a donné un doliprane et lui a promis du décontractile, qui n'est pas arrivé. À chaque passage, on relançait la demande de prise de température. Malgré les promesses des surveillants, la voisine n'a pas changé de cellule. Le lendemain, vers 17h, elle s'est bloquée les reins. L'alerte a été vite passée par les filles, moi, on ne me répondait plus. Une surveillante l'a vue bloquée sur son lit et a dit qu'elle allait prévenir. Durant 1 heure, j'ai essayé de la calmer, car elle paniquait.
« Je veux pas mourir !»
s'engourdissant toujours plus. Vers 18h enfin, j'ai entendu qu'on ouvrait la grille. Il n'y avait que des matons et 2 chefs. Ils voulaient la forcer à se lever et elle criait qu'elle avait trop mal. J'ai même entendu
« Arrête de pleurer ou on va se mettre en rogne !»
Quand ils m'ont apporté la gamelle, je les ai engueulés de ne pas avoir appelé le médecin et ils m'ont répondu
« Mêle-toi de tes oignons !»
Alors j'ai mis le feu aux poubelles et j'ai pris un rapport d'incident. Mardi matin, le technicien est enfin venu. Il faisait 15 degrés près du radiateur, dans le sas. Et 13 degrés dans le coin le plus éloigné. Le médecin, qui venait pour la visite hebdomadaire, m'a dit que la température d'une salle d'habitation normale était entre 19 et 21 degrés. On en est loin. J'ai fait une lettre de plus, la 3e, au directeur. Le prétoire aura lieu le mercredi 27, soit le lendemain de ma sortie de 30 jours de mitard. Ils pourront donc m'en remettre autant. Il suffit de trouver des violences, c'est pas dur.
Voilà, donc c'était donc les lettres de Christine dont on passera la suite sans doute la semaine prochaine. Et sinon, c'est possible de les retrouver en ligne sur le site de l'Envolée, l'envolée.net. Et puis j'en profite aussi pour donner l'adresse de Christine si jamais il y a des gens qui ont des envies de lui écrire. Donc c'est Christine Ribailly, R-I-B-A-I-2-L-Y, centre de détention, chemin des Anzacs, A-N-Z-A-C-S, 62 451 Bapaume, CEDEX, Bapaume, B-A-P-A-U-M-E. Voilà, donc on va pouvoir passer une petite musique. Yeah.
never could have thought or guessed that things could get so far out of hand. I'm gonna see you coming down.
C'était des nouvelles de Christine Ribailly, qui est donc toujours en prison, à qui vous pouvez écrire, ça serait sympa pour elle. Et donc à l'adresse...
Je la redonne, Christine Ribailly, centre de détention, chemin des Anzacs, A-N-Z-A-C-S, 62451, Bapaume, Sedex.
Et on la mettra sur le site aussi.
Voilà.
Sinon donc là maintenant ce qu'on avait envie de vous passer maintenant c'était donc un enregistrement de conférence qui avait eu lieu donc au seul problème il y a 2 semaines à peu près il me semble, où était invité Jean-Marc Rouillant et en tant que très longue peine on va dire, pour pouvoir parler des prisons et de la situation à l'intérieur. Il voulait en fait essayer de faire partager son savoir pour que les gens soient un peu mieux préparés dans un premier sens, c'est-à-dire l'anticarcéral, aider les prisonniers, essayer de faire un lien à l'intérieur, à l'extérieur. Et en même temps aussi à nous tous, que la prison guette tous, puisqu'on finira tous en prison donc, et d'expliquer un peu la situation aujourd'hui en prenant quand même aussi un peu exemple de son histoire. Il a passé donc en tout 27-28 ans de prison, il en avait fait aussi un petit peu avant déjà, il a goûté des prisons un peu de France et de Navarre, il parle là surtout de celles qui se passent en France, et donc ça s'est un peu dirigé tout seul, il a parlé, quelques gens ont posé des questions, et on peut dire qu'on a fait une espèce de... ce morceau choisi. Bon, comme c'était une discussion, ça discutait pas mal de temps, assez longtemps, et là on a essayé de vous faire un condensé. Ça passe des fois du coq à l'âne, mais du barreau, on va dire, à la porte. Mais ça suit son cours au niveau des discussions et de ce que lui, il avait dans tous les cas vraiment envie de dire. Voilà, donc c'est sa parole. Je pourrais dire juste pour rigoler que ça n'engage que lui, mais que dans tous les cas, ce qu'il pourra pas dire, c'est qu'il l'avait pas dit. Donc voilà, cette fois-ci, c'est parti. Ça dure 47 minutes, accrochez-vous, c'est sur NDChaîne 88. Et donc c'est la parole de Jean-Marc Rouillant et vous êtes toujours sur ND... Ah non, c'est raté. On va faire une autre tentative un peu plus efficace que comme ça. Mais donc vous êtes bien, vous avez reconnu le style, vous êtes bien à ND Chaîne qui ne change rien. Une équipe qui gagne, on la garde.
Surtout pas faire une conférence. C'est très complexe à dire parce que je suis persuadé qu'il y a des prisonniers politiques qui ne sont pas du tout révolutionnaires et qu'il y a des prisonniers sociaux, dits sociaux, qui sont des prisonniers révolutionnaires. Comme tu as énormément de détenus qui sont des réactionnaires. C'est pour ça que je ne défends pas la... Je défends l'ensemble de la population pénale parce qu'ils sont torturés. Pas par l'opposition politique, qui sont ultra réactionnaires, qui sont souvent des capitalistes autonomes, et les gens passent. Donc moi, je ne me pose pas la question de l'abolition de la prison, c'est la liberté pour tous. Moi, je ne suis pas pour la liberté de tous. Je suis pour la liberté de tout le monde, mais pas de tous, tous les prisonniers. Tu comprends ? Quand je parle toujours des cannibales, par exemple. Pour libérer les cannibales. Mais pourtant, je suis un abolitionniste convaincu de la destruction de la prison.
Donc, et voilà, maintenant, c'est
en prison.
Pour un moment,
j'ai connu
sur
des assassins.
Partie du livre. Oui, je coupe un peu en vrac, là. Et là, maintenant, c'est un partie de son livre qui s'appelle Autopsie du dehors. Et dans lequel, effectivement, il parle des cannibales. On continue, ça va ponctuer un peu. Ça, il l'a pas dit, en fait, sur place. Mais comme il l'avait écrit dans, enfin, il en a parlé sur place, mais comme il a écrit dans son livre, en fait, on a repris la partie qui était dans son livre. C'est parti, on l'a déjà écouté sur une des chaînes, mais c'est pas grave, on adore.
Convaincu de la destruction de la prison.
En prison, j'ai connu des assassins, des meurtriers, des fratricides, des infanticides, des matricides, des parricides. En prison, j'ai connu des tueurs au service de grands patrons, des flics du sac tueurs à gages, des gendarmes dégradés ayant du sang sur les mains, et même des matons. En prison, j'ai connu des criminels crapuleux, des criminels passionnels. Ils ont tué leurs femmes, des hommes, des femmes d'autres hommes d'autres femmes. Des enfants, des petits et des grands, des vieillards, des tout crochus. J'ai même côtoyé des criminels qui tuaient sans le moindre motif, sans la moindre raison, des gens comme vous et moi, et d'autres des vraiment retors, torturés par le désir du crime parfait. En prison, j'ai connu des mecs qui ont mangé de la viande humaine, et certains ont bu du sang, comme les vampires que vous croisez au cinéma et qui vous effraient quand vous vous retrouvez seul dans le noir, ou qui vous amusent parce que vous êtes convaincu qu'ils n'existent que dans les films. J'ai vécu longtemps avec des gars qui ont sucé de la cervelle. Quand je les croisais, je ne pouvais m'empêcher de regarder leur bouche. J'ai vécu longtemps avec des gastronomes qui me parlaient de leur recette du poumon rissolé et du pied de portugais à l'étouffée. Certains ne cuisinaient même pas les cadavres. Ils mangeaient comme mangent les fauves croquant du gnou ou de la gazelle à quatre pattes à même le sol à pleines dents. D'autres dégustaient à table avec un couteau et une fourchette. Autour du cou, une serviette. Certains cannibales se souviennent du goût de la chair humaine. D'autres, absolument pas. Les premiers auraient apprécié la saveur sucrée de cette viande. J'ai vécu longtemps avec des cannibales. J'évitais de leur tourner le dos avec ce sentiment bizarre d'être considéré comme une denrée périssable. En prison, j'ai connu des violeurs. J'ai connu des violeurs de vieilles femmes, des violeurs d'hommes, de petites filles, de jeunes garçons, de bébés à peine nés. En prison, j'ai connu bien des adeptes d'attentats à la pudeur avec ou sans violence, des partisans de l'outrage à la pudeur. En prison, j'ai connu des violeurs de cadavres dans les morgues. J'ai connu un tueur qui déterrait ses victimes pour les violer une seconde fois. Certains de vous ont sûrement rencontré des anthropologues, des anthropophiles, et vous avez entendu parler des anthropopithèques et des anthropoïdes. Certains de mes voisins étaient anthropophages et d'autres nécrophiles, et parfois les deux à la fois. En prison, j'ai connu des facettes de l'homme dont vous ignorez tout. Vous ne pouvez même pas l'imaginer. Pourtant, ils sont parmi vous. Je sais que le plus banal et le plus éduqué d'entre vous peut se révéler d'une nature extraordinaire et criminelle. Quand je vous vois dans la rue, je sais que vous en êtes capable. Vous portez cela en vous, car le système lui-même ressemble à ces criminels. Il est le plus grand des criminels. Quand je vous vois dans la rue, je sais que vous en êtes capable. Vous portez cela en vous, car le système lui-même ressemble à ces criminels. Il est le plus grand des criminels.
C'est difficile d'en parler parce que il y a un gros tabou. Il y a un très gros tabou sur la violence dans la prison. Il y a beaucoup de détenus qui meurent. Énormément de détenus qui meurent. S'il n'y a pas la solidarité dans une prison, la mort des détenus est beaucoup plus importante. C'est-à-dire qu'il y a une progression et c'est en rapport avec la solidarité et l'état d'autodéfense des prisonniers. Je ne peux même pas dire combien j'ai vu de détenus mourir. Je ne peux même pas calculer. Quand vous voyez quelqu'un mourir dans la rue, vous vous en souvenez. Vous pouvez dire, moi j'ai vu mourir, tiens, trois personnes, un accident là. Moi, je suis incapable de dire combien j'en ai vu crever. Je peux te dire que la répression, c'est inimaginable. Mais même moi, je suis incapable de l'exprimer. C'est-à-dire de dire, ben, tiens, quand j'étais à cette prison, il y en a un qui est mort là, cette cellule. Mais c'est des morts. Pas naturelles, hein. Il n'y a aucune mort naturelle en prison. Même un infarctus, c'est pas une mort naturelle en prison. C'est qu'il y a un état de stress dans une détention, et je parle de détention de haute sécurité, le nombre de je pense à Benjelloun, je pense que tout le monde a entendu parler de Benjelloun avant Mesrine, c'était un ennemi numéro un, public numéro un, il est mort en rentrant du parloir. Pourquoi? Parce que ça faisait une semaine qu'il se bataillait avec les matons, ça faisait une semaine qu'il empêchait de dormir, parce qu'il empêchait deux ou trois autorisations qu'il avait demandées. Et effectivement, il est mort naturellement d'une crise cardiaque, dans une crise d'énervement. Bon, ils appellent ça mort naturelle. Non, ce n'est pas une mort naturelle. C'est que la torture quotidienne de la prison, ça produit des pendaisons, l'imagination des individus en prison pour se tuer, c'est quand même incroyable. Moi, je ne demanderai jamais le rétablissement de la peine de mort, le rétablissement du bagne, le rétablissement des galères, jamais. En tant que militant, je vais voir le progressiste, toujours. Toujours, je réclame toujours d'aller vers l'espoir. Mais vous êtes seul en cellule, vous avez toujours la possibilité de vous tuer. C'est la lutte collective qui est le plus difficile. Se tuer, c'est... Quand vous sortez une lourde peine, longue, et que vous vous retrouvez juste dans la salle d'attente pour entrer au greffe, et que vous savez que vous revenez en prison, là, l'impression, elle est lourde. C'est, soit tu flingues comme Armando, soit tu dis, tu laisses l'espoir de côté. Quand tu dis repeindre les murs, les détenus les plus conscients, ils ne se battent pas pour repeindre les murs pour avoir des rideaux aux fenêtres. Les détenus les plus conscients, ils se battent, même si on rend la détention plus dure, ils sont d'accord, à condition qu'on s'attaque aux peines, aux longues peines. C'est la longueur des peines qui voilà.
C'est pas les conditions.
Voilà.
Ça, ils le disent tous assez façon
récurrente. C'est clair. Ils préfèrent passer au mitard le plus longtemps s'ils peuvent sortir avant. Donc ça montre quand même qu'ils sont prêts à supporter davantage, mais moins longtemps. Tu as 90% des prisonniers qui sont passés au bon maître. Si on leur dit Tu vas à Fresnes, tu vas au Beaumetre, 90% vont choisir les Beaumetre. C'est clair. C'est la prison où tu as 6 heures de promenade par jour. C'est une prison où tu as une solidarité, tu as une chose, tu peux même, si tu t'enquilles bien, tu peux changer de bâtiment, tu voyages dans la prison. Même moi, j'hallucinais. J'hallucinais l'année où j'ai découvert la prison normale. J'ai halluciné parce que c'était au Beaumetre. Et là, j'ai vu la différence entre la prison de haute sécurité et la prison normale. Parce qu'effectivement, il y avait des cafards, il y avait même des scorpions dans les cellules, il y avait des rats, il y avait des saloperies partout. Mais la vie, la socialité, parce que c'est ça qui compte quand on est prisonnier. Quand je parlais de solidarité tout de suite, c'est-à-dire que quand il n'y a pas de solidarité, c'est qu'il n'y a pas de socialité. Mais au Beaumetre, on arrivait à faire les petits déjeuners collectifs, les repas collectifs dans les cours de promenade. Il y a une ambiance. Et tu disais sur les prisons modernes que avec l'OIP, ça, je comprends l'OIP comme anticarcéral, hein, entre guillemets, c'est anticarcéral, pour une réforme de la prison. Ces mecs ont fait des désastres. L'encellulement individuel, moi j'ai vu des gens pleurer, des gamins pleurer parce qu'ils voulaient être à 4 en cellule avec leurs copains de quartier. Quand on dit, ouais, ils sont terribles, ils sont 5, mais il y a des jeunes, des gamins de cité, ils sont toute l'après-midi ensemble en promenade, ils montent, ils sont comme la cité. Ils ne voient pas la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Franchement, il y a un gamin, il disait, je suis aussi bien ici que dans la cité. Ils ne voyaient pas la destruction de la prison. Mais quand tu vas à Seyss, que j'ai connu j'ai vu ce que c'était une nouvelle prison. Ah, t'as la douche en cellule. Parce qu'il n'y a pas de mouvement pour une amélioration, même humaine, de la prison. Donc, toutes les améliorations entre guillemets, de la prison sont menées, sont dictées par les syndicats de surveillants. Et les syndicats de surveillance, si on a la douche en prison, si on a la douche en cellule dans certains établissements, c'est pas pour... Je vous tourne le dos toujours, mais... C'est pas pour l'amélioration des conditions des prisonniers. C'est que parce que balader 20 bonhommes dans le couloir pour les amener à la douche, un seul surveillant, il refuse. Donc ça fait des histoires, etc., etc. Donc le syndicat pense que les cellules équipées de douches, c'est mieux. Effectivement, c'est mieux. Parce que le détenu ne sort plus. Quand je disais, par rapport aux mecs, ils se disaient, ben, moi je vais résister, moi je vais... Je disais, ils ont 150 ans d'expérience. Toi, t'as 18 mois d'expérience sur la prison. Eux, en face, ils ont une mémoire collective. Quand on... Je rigole parce qu'au Beaumetre, là, ils ont. On a, bon, comme maintenant pratiquement dans toutes les prisons, on a les reconnaissances électroniques. C'est-à-dire, on passe la main dans une machine et ça apparaît ta photo, tout ton dossier, etc., etc., au-dessus de l'écran. Mais ils continuent quand même à te relever l'empreinte. Ils n'abandonnent jamais rien. Ils ne laissent jamais rien derrière. Ils disent ça, non, c'est pas caduque. Ça, c'est caduque. Non, c'est caduque en prison, ça n'existe pas. C'est-à-dire que tu vas faire, pour sortir maintenant, pour avoir ton billet de sortie, tu as 3 opérations complètement absurdes pour ton relevé d'identité qui, ils n'en enlèveront jamais une. Pourquoi ? Parce qu'en même temps, ils le font sur le prisonnier, c'est une méthode contre le prisonnier, mais en même temps, c'est une méthode de dressage et des tortionnaires. Que tu ne peux pas l'appeler différemment. Par exemple, j'ai vu un mec qui a été laissé pour mort, qui est peut-être mort, je ne sais pas, parce qu'on devient insensible en prison. On peut voir un cadavre par terre dans le couloir, On va au début, on va protester, on va dire putain, mais il est mort, c'est pourquoi qu'il est mort là, lui. Et au bout des années, on passe à côté d'un cadavre, il se passe rien. Même intérieurement, il se passe rien. J'ai vu un détenu, c'est sans doute un clandestin, ce qu'on appelle un sans-papier à l'époque à Fresnes. Et à Fresnes, on les obligeait à descendre en rang, en suivant une ligne. Et il y avait des petites lignes de temps en temps où il fallait marquer un arrêt. Donc imaginez quelqu'un qui n'a pas de papier, qui arrive, qui se retrouve au premier étage à Fresnes, et qui n'est pas un délinquant, qui n'a rien. Et donc il se fait agresser par une dizaine de surveillants parce qu'il ne s'est pas arrêté au trait. Et là, il a la réflexion, parce que moi je suis dans le quartier d'isolement, mais je suis hors de ma cellule, donc j'entends toute la conversation. Et il dit, c'est Alcatraz, c'est pire qu'Alcatraz. Et le surveillant a compris, putain de ta race. Ça s'est passé comme ça. Et le mec, ils l'ont tué. Et donc il y a l'escalier comme ça, il y a la grille quand on est à Fresnes. Ils l'ont tiré par les pieds quand ils l'ont tué. Ils l'ont tiré par les pieds et toutes les marches de l'escalier, sa tête, il est tiré par les pieds, sa tête tapait. C'est un truc qui m'a marqué parce que je suis dessous comme ça et je vois ça. Et ils l'ont tiré comme ça, il a quitté la détention, tiré par les pieds. Il n'avait plus de conscience. Hein. Donc quand j'ai été aussi au Mitard à Fresnes régulièrement, je ne sais pas comment l'humain peut résister à de tels coups. Et je commence avec le dehors à me dire, putain, parce qu'il faut résister. Donc on se rend insensible à tout ça, tout ce qu'on voit. Et des détenus tués à coups de boules de pétanque ou des choses comme ça, on voit. Mais voilà, c'est pas notre histoire, c'est pas chose. Si on ne peut pas intervenir, il n'y a rien, il faut fermer les écoutilles. Mais ça, c'est pas quotidien. Mais quand je vous dis, je ne peux pas vous dire combien de gens crevés j'ai vu, parce qu'en prison, on ne meurt pas, on crève. Hein. Dans les couloirs, dans les cellules, des gens accrochés. Des gens ci, des gens ça, des gens qui s'accrochaient, qui se coupaient les veines en même temps, bon, des trucs. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis abolitionniste. C'est pas parce que j'ai la solution pour la suite. C'est que c'est un système d'extermination. Mais sur qui elle s'abat? Sur la classe dangereuse, sur les gens des quartiers populaires, c'est une terreur collective. Si tu te fais oublier, si tu n'existes pas par rapport au sentiment de terreur généralisée qu'il y a dans la prison, tu penses que tu as une petite chance de t'en sortir. C'est pour ça la peur de certains détenus à participer à des mouvements collectifs. Quand vous allez casser des flics pour la victoire du Paris Saint-Germain, vous avez, même si vous êtes un ravagé, vous avez des chances de vous en sortir. Quand vous faites un mouvement en prison, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Si le système vous désigne, vous êtes cuit. Si vous passez pour un meneur, c'est-à-dire... Vous commencez 45 jours de mitard, transfert, 6 mois de QI quelque part, 4 mois de grâce pour l'année, 4 mois d'année précédente, ça fait 8 mois de prison de plus, etc., etc. Donc il faut calculer quand on fait un mouvement collectif, c'est qu'on ne tient plus. On dit, moi j'entendais des radios à Paris qui parlaient, ouais, mais c'est con, il y a moins d'émeutes qu'avant. Mais il faut voir. Quand les prisonniers font une émeute, ce qui se passe. quand ils font une tentative d'émeute. Parce que en 89, il y a eu une tentative à Clairvaux. Les détenus ont été tabassés pendant des jours. Les 6 détenus ont été tabassés pendant des jours au mitard. Il y en a un qui était un Marseillais. Ils ont été violés avec les clés, des tortures horribles. Et ils se sont payés des 3-4 piges de plus. L'amélioration d'une situation. Par exemple, on a dit le bagne c'est fini, vous revenez, ceux qui ont encore de la peine à tirer, vous allez rentrer en France. Mais imaginez qu'en 50, les gens, il y avait pratiquement plus de gens dans la réclusion au bagne. C'est-à-dire qu'ils étaient dehors, ils faisaient les jardins, ils mangeaient, ils ne connaissaient plus la cellule. On les a rentrés en France et pour 5, 6 ans, 7 ans, les gens sont revenus dans des cellules à Clairvaux. Ça a été aussi lamentable, parce que les mecs ne tenaient plus la cellule. Pour eux, ils ont eu l'impression de revenir en prison. Des fois, l'amélioration du côté de la bourgeoisie, c'est souvent pas terrible. On nous sort chaque fois, il vaut mieux... ou se faire oublier, ou il ne faut pas servir les matons. Ou le faux radicalisme. Ah, si on ne tue pas un maton, ça, rien ne bougera. On a déjà vu ça. Il y a des détenus qui disent, ouais, moi, je ne bouge pas parce que je vais m'évader. D'accord, on sait, on essaye tous de s'évader. Tous, il y en a qui réussissent parce qu'ils ont plus d'habileté, plus de choses. Mais tous les détenus, il n'y a pas un détenu qui ne veut pas s'évader. Il veut sortir. Bon, mais si le risque, c'est de se faire tirer sur le mur, etc., etc., les mecs calculent. Voilà, les mecs calculent. Mais c'est vrai que, par exemple, dans l'évasion d'Arles, quand il y a eu une évasion un peu collective, effectivement, quand on a parlé à tous les détenus qu'il se préparait quelque chose d'armé, que ça serait très dur, mais qu'on pouvait sortir, effectivement, on se retrouve une poignée. Hein. On se retrouve 10 sur une prison de 150. Et tout, c'est des grosses peines. Parce que les gens disent, je ne veux pas crever sur le mur. Mais à Arles, lors de cette évasion, il est mort un détenu italien. Il lui restait 18 mois. Et dans la cour, des mecs qui n'ont pas bougé, il y avait une dizaine de perpètes. Qui, quand ça a commencé à tirer, sont partis dans l'autre sens. Et c'est des radicaux qui parlaient depuis tout le temps, je ne participe pas au mouvement collectif, je participe parce que mon projet c'est de m'évader. Tout ça c'est des alibis. Il y a toute une stratégie d'alibi. Le mouvement. Je sais qu'il ne faut pas penser au lendemain quand on va lutter, parce qu'autrement, si on pense au lendemain, à part ceux qui chantent, ça ne va pas. C'est. Surtout en prison, parce qu'il n'y a pas d'échappatoire. Et on peut le dire, tous les gars qui se sont réellement évadés, soit qui ont fait réellement des émeutes en prison, qui ont lutté, ben ils sont, ça se passe pas cool. Jusqu'au bout. Et on peut le dire... Tous les gars qui se sont réellement évadés, soit qui ont fait réellement des émeutes en prison, qui ont lutté, ben ils sont, ça se passe pas cool pour eux. Jusqu'au bout.
Voilà, on est gentiment arrivé déjà à la moitié de la conférence. Et maintenant, voilà, on va écouter la seconde partie. Donc c'est toujours Jean-Marc Rouillant, c'était au seul problème, un endroit où il faut être. Et ça continue, donc voilà, c'était cette conférence sur la prison et les longues peines. C'est des jeunes.
Moi, quand on me dit, mais comment tu as fait pour tenir, simplement pour tenir, pas pour garder ma tête, je ne l'ai pas gardée.
Ouais, mais physiquement, ça me paraît plus facile.
Non, c'est complet. Regarde, tous les détenus sont malades. La maladie, quand le SPK allemand l'a expliqué, que la maladie était un rapport social, en prison, c'est clair. C'est un rapport social d'oppression, la maladie. Et tu ne peux pas imaginer le nombre de cancéreux à 40 piges en prison. La proportion par rapport à l'extérieur. Anti-asile psychiatrique ont été plus costauds que les militants anticarcéraux. Ce qui fait qu'on a aboli énormément de centres fermés. Pourquoi ? Parce que les militants anti-asile étaient des bourgeois. Ouais, c'était des professeurs, c'était des choses. Et ils ont arrivé à ce truc-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mecs, si tu vas au Beaumettre, qui passent de l'asile de jour à l'incarcération. Énormément. Et parce qu'ils n'ont pas eu des soins, parce qu'ils n'ont pas eu ça, parce qu'ils n'arrivent pas à truc. Non, je parlais, le truc de la tête, si on garde sa tête, on ne garde pas sa tête, c'est d'abord, il faudrait se poser la question, qu'est-ce que la normalité ? Et la normalité, mais effectivement, il y a la maladie, la folie est une forme de résistance du détenu face à la situation d'oppression qu'il a. Il y a beaucoup de détenus qui on se réfugie dans leur monde et au bout d'un moment, leur monde, ça devient la totalité et ils disparaissent. Bon, ils disparaissent, ils existent toujours, ils sont dans la cellule voisine. Mais il y a des mecs qui vivent en maillot de bain toute la journée, même l'hiver, qui veulent vivre absolument, qui ont une obstination à vivre à la plage. Moi, j'en ai connu un, avec lunettes de soleil, et il passait toute sa journée sur une serviette éponge dans le truc, et il disait, moi, de toute façon, je connais plus ce truc, je suis à la plage. Mon camarade qui était dans la cellule à côté, qui avait fait à peu près les mêmes choses que moi, qui était politisé, qui était très 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 normal, et ben il a perdu la raison. Je ne sais pas. Et on l'a retrouvé enfermé à Villejuif et à Sarreguemines. Ça, on ne peut pas le déterminer. C'est souvent des trucs. Tu sais pas. Quand tu traverses la rue, tu peux être tué par une voiture. Là, si tu fermes les yeux. En prison, tu peux perdre la tête. Vous connaissez par exemple Guélam. Quand il est sorti après, je ne sais pas combien de temps, après l'affaire de Moulin, la tentative de Moulin, il est arrivé à notre étage. Eh bien, il était à deux doigts de craquer, quoi. À deux doigts de la situation psychologique dramatique. Mais moi, ça arrive très souvent sur les détenus, même des gens qui sont tout à fait normaux. On ne se rend pas compte comment on dérive, comment on arrive... Proche de la folie, il faut la confrontation parce que quand on est seul, on ne sait pas ce que c'est la normalité. C'est quoi quand on est seul ? Qu'on n'a que son miroir pour répondre qu'est-ce que. Et en plus, le miroir, il ne voit pas si on est fou. Mais eux, la bourgeoisie, va nous pondre quelque chose. Ils ont enlevé les galères, ils ont créé les bagnes. Ils ont enlevé les bagnes, ils ont créé les prisons. Le problème, c'est que si on les laisse faire, effectivement, ils vont nous faire... Parce que le bracelet électronique, c'est une situation très intermédiaire. Ils préparent autre chose, même la puce est lisible avec localisation permanente, etc. etc. Ils y sont déjà là-dessus. Hein. Et ça, s'ils disent, par exemple... Parce qu'un détenu en bracelet électronique coûte 10 fois moins, je ne sais pas, tu as peut-être les chiffres, 10 fois moins qu'un prisonnier. Pourquoi ? Parce qu'il se loge, parce qu'il se nourrit, parce qu'il va bosser dans des trucs, même des associations. C'est le prisonnier parfait. Mais j'ai un pote, le Laotien, là, que tu connais. Lui, il n'a qu'1 heure et 50 minutes à l'extérieur. C'est-à-dire, toute la journée, il reste dans une cité. Il reste dans une cité, dans l'appartement de sa mère. Il n'a pas le droit de sortir de l'appartement de sa mère. Et il a 1 heure et demie de promenade par jour. Où il peut aller à l'extérieur, il peut... Comme il vit dans les cités sud de Marseille, il lui faut 10 minutes ou 20 minutes pour venir en métro. Il faut qu'il passe 20 minutes dans Marseille, il revient chez lui. Il calcule le temps de ton boulot jusqu'à chez toi. Le bracelet électronique qui est actuellement effectivement encore dans la vision d'élargir le contrôle et la terreur, hein, parce que c'est aussi de la terreur, parce que il faut voir quand le truc sonne, il faut répondre. Si on répond pas, ça peut entraîner toutes les choses. Ils peuvent débouler à 4 heures du matin, ils peuvent, etc., etc. Moi, ils me l'ont pas fait, mais j'ai connu d'autres détenus où ils débarquent en pleine nuit pour bien vérifier que le mec s'est pas enlevé le bracelet, qu'il n'a pas tout un système pour éliminer le bracelet. Et c'est une pression permanente. On sait qu'ils peuvent débarquer chez soi à tout moment, qu'ils peuvent écouter chez toi parce que leur borne, elle fait micro. C'est-à-dire, ils peuvent te parler, mais en même temps, ils peuvent écouter tout ce qui se passe chez toi. Mais ça, c'est un truc qu'ils sont déjà en train de perfectionner, qu'ils ont déjà, sur certains détenus, ils emploient actuellement un petit truc où ils te localisent en permanence. Ils sont déjà en train de l'essayer.
Et que ça, pour l'instant, ils n'ont pas du tout l'intention de s'en priver, quoi.
Parce que dans la haute sécurité, c'est surtout les détenus qui sont dangereux pour eux, qui sont, c'est-à-dire les dangereux, les politiques, les mecs qui s'évadent.
Pour eux, pas pour eux-mêmes, pour la société.
Pour la société, ouais. Pour la bourgeoisie. Et tu as les politiques, les ceux qui s'attaquent à la propriété d'une façon extrêmement violente. Et au niveau de la longueur des peines, c'est évident. C'est évident. Une situation quand on est en prison et qu'on s'affronte à eux frontalement en permanence, c'est comme se frapper la tête contre les murs. Je le dis toujours aux mecs quand ils sont des rebelles, parce que j'ai connu des gens condamnés à 9 mois de prison qui étaient en centrale de haute sécurité. 9 mois de prison. Pourquoi ? Parce qu'ils ont cassé la gueule à un maton. Après, ils ont cassé la gueule à un chef de détention. Ils ont fait ça. Ils ont des rallonges. Ils sont à 10 ans. À 10 ans. Et donc, quand ils ont ces mecs-là, ce genre de mecs, et c'est des mecs qui disent « Ouais, je fais ça parce que je refuse la prison. » J'ai dit « Putain, tu vas en faire un maximum de prison. Si moi, je ne suis pas pour la soumission. Je trouve bien de casser la gueule à un chef de détention. Je trouve même ça parfait. Mais le problème, tu rentres dans une stratégie qui te conduit à l'extermination. Tu sais que tu vas crever. » En prison, tu dois calculer tes coûts, ce que tu fais, ce que tu fais pas, etc., etc. Et ben, moi, j'ai, par exemple, à l'isolement, chaque fois que le mec disait bonsoir, je disais merci, bonsoir. Tu vois, il sait très bien ce qu'il fait le matin, hein, et dans quelle situation on est. Il dit quand même bonsoir. Voilà. Et si tu t'affrontes en permanence, c'est vraiment, c'est pas le pot de fer contre la timbale en terre, mais y a pas d'échappatoire. C'est-à-dire que le lendemain, quand tu te réveilles, tu es en prison, hein, t'es pas ailleurs. Donc c'est une nouvelle journée de combat, tu dois recalculer tous tes coups. Je ne sais pas. Non, je ne sais pas si par rapport à la situation de torture, mais des fois, le fait de s'ouvrir à d'autres mondes, il y a des gens qui se sont réalisés en prison. Tu as par exemple Philippe Maurice qui était, comme il dit lui-même, un petit voyou qui vivait au jour le jour et qui est aujourd'hui professeur d'université, spécialiste, et que ce qu'il fait, ça lui comble la vie. Il y a en prison, il y a des amours super, il y a tout aussi en prison. Mais là, j'ai vu un pote de prison sur le Vieux-Port. On est allé bouffer ensemble. Et il me disait, je lui disais, ben quand même, il m'a dit je ne reviendrai pas en prison. Mais quand je pense encore, je me souviens, le seul endroit dont je me souviens, c'est Arles. Parce qu'il y avait une vraie vie dans la prison. On avait on luttait. Effectivement, je n'ai jamais fait autant de mouvements. Il y avait des soirs, on bloquait l'étage. Un étage entier, donc c'est 20 personnes, on restait dans le couloir avec les chaises, on n'avait pas de revendications. C'est-à-dire on le faisait et on arrêtait le blocage au moment où on disait le film commence, on rentre en cellule. Le chef de détention est devenu fou, si tu veux, quand tu as un étage comme ça. Mais effectivement, tu as une socialité dans la prison, tu as une solidarité à ce moment-là, quand j'ai dit. Et c'était une des prisons où il y a eu le moins de suicides. Parce que tous les détenus se tenaient, parce que tous les c'était comme j'ai dit, je vais profiter quand j'étais à Arles ce moment-là. J'ai dit profite cet endroit sur deux thèmes, où tu essayes de t'évader parce qu'effectivement ça semblait le plus facile, ou tu te régénères, c'est-à-dire tu régénères, ça te fait une pause dans la détention. Parce que moi je venais du QI. Et quand je suis reparti, je suis allé en QI. Donc c'était vraiment une pause, tu vois. Et quand c'est vraiment sympa, une prison. Voilà. Oui, non, mais c'est difficile à comprendre. C'est-à-dire que quand tu as un rapport de force dans la prison, tu as créé un rapport de force qui peut péter à tout moment, hein. Mais tu as un rapport de force où tu es quatre en train de manger, on était dans une bande, on avait des gourbis, on est quatre dans une salle en train de manger, tu as 1,5 litre de vin sur la table, et le surveillant il passe par hasard, parce qu'il n'est pas prévu qu'il passe, il fait bon appétit, etc. etc. Quand tu commences au pastis, tu bois du vin rouge au repas, que tu n'as pas de rideau aux fenêtres. Mais le problème, c'est que tu peux avoir ce rapport de force en disant, ben nous, on boit du vin comme toi tous les jours. Et le week-end, c'est parloir libre dans les deux étages de parloir. Et tu rentres pas dans les parloirs. Si tu arrives à cette confrontation et qu'au moins de problème, tu as 100 mecs au rond-point, effectivement, la prison, ça devient autre chose. Et la prison s'estompe. Parce que tu as une autre vie. La catégorie la plus importante de la prison était les braqueurs. C'était le braqueur qui était vraiment qui tirait la prison vers le braqueur fonctionnait avec les politiques, ça tirait la prison vers le haut. Actuellement, il y a des prisons où les pointeurs cassent la gueule aux braqueurs. C'est-à-dire qu'ils se mettent à 15-20, parce qu'il y a énormément aujourd'hui, ce qui était avant les crimes sexuels, étaient commis par des gens ordinaires, comme souvent aujourd'hui aussi, mais de plus en plus, il y a des crimes, ce que j'expliquais tout à l'heure, ceux qui pensaient ne pas faire des crimes sexuels, ceux qui participent aux tournantes, qui sont des jeunes bien costauds. Donc là, il y a du répondant en face. Et comme par exemple Chenal, je ne sais pas si vous vous souvenez, Chenal, c'est aussi un mec qui avait fait disparaître l'adjudant de Montredon qui faisait disparaître les jeunes, sa pelure. Bah lui, en prison, personne il est allé lui chercher des noises. Il était professeur de close combat, etc., etc. Peu de gens sont venus lui chercher des noises. Mais bon, la loi de la prison est telle, il faut aussi... il y a la loi de l'objectivité aussi. Et aujourd'hui, les détenus sexuels, qui dominent la catégorie des détenus sociaux, s'organisent, sont beaucoup plus violents par rapport aux autres détenus. Et il y a des détenus, par exemple, sexuels qui viennent de banlieue, qui s'attaquent aux homos en prison. Et c'est très difficile de rentrer dans ces conflits. Parce que tu n'arrives pas avec ta bonne conscience en disant « Oh, les mecs, je vais vous expliquer, là, oh là, ça va pas, là-haut, tout ça, c'est impossible. » C'est-à-dire que tu te retrouves face à 10 mecs avec des barres de fer, avec des couteaux. Quand il explose une vraie bagarre en prison, c'est impressionnant. Hein. C'est-à-dire qu'il y a toute la prison qui vibre des coups qui se donnent. Et c'est quand c'est des coups de couteau, c'est vraiment des coups de couteau. Par exemple, j'ai connu quelqu'un qui avait pris 30 coups de couteau. Il faut voir comment on peut être après 30 coups de couteau. Bon, il a survécu. Mais quand c'est une bagarre, c'est impossible d'aller discuter. Voilà. Donc, reflet de la société, c'est une chose c'est des juges. Les détenus sont aussi des juges. Ils se jugent eux-mêmes. Ils se condamnent, et quand ils se condamnent, c'est chaud. Mais par contre, si tu es violeur et que par une raison X, tu peux alimenter les tâches en chichon, tu changes de catégorie. Tu vois, si tu es un mec violeur, mais tu reçois 2000 euros ou 3000 euros par mois, tu changes de catégorie. Tous les mecs te disent, ouais, bah celui-là c'est différent. Hein. Et oui, parce que tu as des crapules, par exemple, tu as des vraies crapules qui touchent 2000 euros parce qu'ils sont liés à la mafia, quelque chose, qui se sont comportés toujours comme des crapules, mais ils touchent 2000 euros par mois. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils prennent une dizaine de petits détenus, ils leur disent « Bon, ben, je vais cantiner pour toi. » Et tu te retrouves avec une bande de 10 personnes. Et que tu sais que tous les tâches, là, sont des crapules. Les mecs qui se vendent à une crapule, c'est une crapule. C'est une logique. Ben, les détenus, ils sont obligés de vivre avec ça, avec ce rapport de force. Parce que le rapport de force, c'est avec les surveillants, mais c'est aussi entre détenus. Par exemple, quand je suis arrivé à Lannemezan, on m'avait mis dans une prison où il n'y avait que des prisonniers politiques d'extrême droite. Quand ils ont vu que les braqueurs prenaient fait de cause pour moi, et que le rapport de force n'était plus pour les détenus d'extrême droite, le chef de détention, il est allé voir des détenus en disant « Oui, mais hier soir, à 8h, il est allé voir le directeur. Je ne sais pas pourquoi, mais il paraît qu'il est allé voir le directeur. » Heureusement, les mecs venaient me dire « C'est vrai, t'es allé voir le directeur hier soir parce que le chef de détention est venu en cellule pour nous dire. » Donc, tout se sait dans une prison. Et donc, quand ils ont compris que les détenus d'extrême droite, ça ne suffisait pas, il fallait que des mecs me règlent le compte tu vois, des détenus en les montant. Et ça, il fonctionne très bien. Et ça arrive très souvent qu'un détenu se retrouve impliqué dans des histoires parce que les matons l'ont désigné. C'est avec les fausses lettres. Regardez, il m'a envoyé une lettre de dénonciation. Tout ça, c'est une connerie pour faire éliminer un détenu.
Donc, wesh, voilà, c'est comme si vous y étiez, c'était le seul problème. Vous aurez pu remarquer que c'est un peu décousu. Bon, ça, c'était le principe de la discussion. Mais autant, effectivement, des fois, il dit tout et son inverse. C'est ni sa faute, ni celle de qui que ce soit qui était là. C'est le sujet qui comporte en lui-même toute cette confusion, en fait, ce lien dedans-dehors, cette réalité à l'intérieur, notre réalité à l'extérieur, ce mal, cette peine, tous à se sentir d'un côté concerné ou même d'un côté, dans tous les cas, au moins cerné. Et de savoir que, voilà, d'un côté, les luttes à l'intérieur, elles amènent énormément de répression. S'il n'y a pas de soutien à l'extérieur, la répression est bien pire. Et que à chaque mouvement, finalement, cette prison, celle du capital, elle recule, quoi. C'est-à-dire que même si effectivement on revient pas, comme il l'expliquait, au bagne, il n'est pas question de faire des marches arrière. C'est que c'est un outil, c'est celui de la répression, c'est celui de l'État, c'est celui du capital, c'est comme il l'a expliqué, un outil qu'il pratique depuis maintenant plus de 150 ans et dont il connaît les ficelles bien mieux que tous les prisonniers, bien mieux que tous ceux qui s'agitent tant qu'ils le peuvent à essayer de faire disparaître cette aberration. En même temps, voilà, de jamais lâcher le morceau, c'est ce qui se passe pour les gens en prison. Il a parlé de Michel Guélame, donc qui est pareil, à 30 ans de tôle, il a parlé de Christophe Kider qui a fait une tentative d'évasion, il a parlé un peu de Faïd Redouane, là ça a été coupé. Il a parlé aussi de Benjelou, de plein de gens qu'il a vu mourir. Il a parlé, voilà, de la prison avec ses difficultés. Et comme il l'a dit, bah, lui-même n'est pas sorti indemne de tout ça. Donc, NDChaîne, on n'hésitera jamais à vous rappeler de s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur parce que c'est ce qui va nous arriver à l'extérieur. Quand je dis on finira tous en prison, ce sera peut-être bien dehors, mais ça ressemblera à ça. Avec ses puces, avec ses bracelets, et avec ce contrôle, ses caméras, cette vidéosurveillance permanente qui nous permet, enfin, qui leur permet de savoir à tout moment ce qu'on fait. On est, c'est-à-dire à peu près comme en prison. On se rend compte aussi, il l'a bien décrit, que l'OIP et tous les réformistes qui veulent repeindre les murs, finalement, ne font que adoucir la peine des matons et pas celle des détenus. Même s'il y a des gens qui suicident au bout d'une semaine à peine arrivés, la vraie question qui se passe, c'est les longueurs des peines. Pour le coup, dans une position assez simpliste peut-être, mais aujourd'hui qui a pris son sens à travers tout le temps, il faut demander l'application des réductions de peine immédiates, c'est-à-dire les conditionnels à mi-peine, automatiques. Il faut demander cette espèce d'acharnement au perpète, l'abolition définitive de la peine à perpétuité, qui est en soi inconcevable, et de profiter de chaque brèche, de chaque moment, non pas pour fracturer les portes, ça c'est aux prisonniers de les faire, mais pour fracturer au moins, je veux dire, l'espèce de silence qu'il y a entre l'intérieur et l'extérieur. Forcément, aujourd'hui plus que jamais, on aura une pensée émue aux 68 000 détenus. On n'oubliera pas les 700 mineurs enfermés. On n'oubliera pas pour l'occasion aussi tous ceux qui sont enfermés dans les divers centres hospitaliers, psychiatriques ou moins. On n'oubliera pas non plus que dans notre pays, il y a 200 000 personnes qui sont sous le coup de la loi, même s'ils sont pas en prison. C'est des bracelets électroniques, c'est des semi-libertés, c'est des conditionnels pénibles. Et que si ce monde fonctionne, c'est aussi à un moment plus ou moins grâce à la prison. Et si régulièrement dans nos luttes, dans nos résistances, dedans, dehors, et surtout en essayant de grandir et d'imaginer un monde autre que celui-là, face à nous, on aura toujours systématiquement d'abord la police. Et effectivement, on peut nous prendre pour des fois des espèces de flicophobes, mais c'est la juste réalité. Face à nous, on a d'abord la police, et puis après, on a la prison. Voilà, c'était NDChaîne, sans décourager personne. Il n'y a aucune raison, seule la lutte paie. Et donc, on va vous dire gentiment au revoir et à tout bientôt. Et l'équipe de NDChaîne a peut-être quelque chose à rajouter.
Et oui, qu'il y a l'émission Parloir Libre et qu'un outil pour que les familles puissent laisser des mots aux gens enfermés et qui est de 19h à 21h le samedi, tous les samedis. Émission Parloir Libre sur NDChaîne, sur Radio Galère 88.4.
Voilà, la radio n'est pas encore NDChaîne. Gardez la haine et détruisez toutes les chaînes. Vous êtes bien sur Radio Galère et vous êtes bien sur Radio Galère, c'est du 88.4. À la semaine prochaine.